Bonjour à tous, il est midi à Paris, 13h à Beyrouth. Bienvenue sur RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, cette série d'explosions au Liban après les beepers, ce sont des talkie-walkies du Hezbollah qui ont explosé hier faisant 20 morts et 450 blessés. Une opération attribuée à Israël. Qu'en pensent les habitants de Jérusalem? Reportage dans un instant. À cette semaine de la présidentielle américaine, nouvelle illustration de la fracture aux États-Unis. Le puissant syndicat des Teamsters, les camionneurs, refuse de soutenir un candidat plutôt que l'autre. Nous reviendrons également sur cette interview accordée par Gabriel Attal à l'hebdomadaire Le Point. L'ex-premier ministre français y évoque son lien avec les Français et ses ambitions. Et puis nous terminerons ce journal avec la Ligue des Champions et l'entrée en lice de Monaco ce soir face au FC Barcelone. Une affiche de gala pour les Monégasques de retour dans la compétition après 6 ans. Le Hezbollah libanais annonce la mort de 20 de ses membres et 450 blessés après les explosions de talkie-walkies hier au lendemain d'une première vague d'explosions de beepers qui a fait 12 morts, 2800 blessés. La formation et le gouvernement libanais accusent Israël d'être derrière ces attaques. L'État hébreu n'a de son côté pas fait de commentaires. La correspondance à Jérusalem de Fanny Léonore Crouzet.
Benji est installé depuis plus de 50 ans dans une grande maison fleurie dans le quartier d'Abou Tor à Jérusalem. Israël n'a pas revendiqué les attaques, mais pour lui, il y a peu de doutes sur l'auteur.
Je pense que c'est Israël, oui. Je ne condamne pas ce qui s'est passé. Et si je suis totalement honnête avec vous, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est un sentiment de joie.
Instinctive joy. Un sentiment de joie, mais aussi une angoisse permanente depuis le 7 octobre. Pour Benji, l'événement d'hier est une nouvelle crise, après les attaques iraniennes d'avril dernier et les menaces récurrentes d'attentats.
J'ai tout le temps peur parce que je n'aime pas les guerres. Mais je suis un juif nationaliste qui aime mon peuple. Et quand mon camp est blessé, je suis heureux de pouvoir répliquer.
Le front avec le Hezbollah est à moins de 250 kilomètres. Mais à Jérusalem, la vie continue, malgré les tensions au nord. Mirav et sa fille Eren sont à une terrasse de café.
Ils nous ont attaqués. Ils ont attaqué les gens qui vivent au nord. Ils ont tué des soldats, ils ont tué mes amis.
On n'aime pas la guerre, mais ils nous tuent et ils ont besoin de comprendre qu'on est fort et qu'on tuera tous les hommes qui nous ont tués. C'est tout.
Comme beaucoup d'Israéliens, les deux femmes ne croient plus à une solution diplomatique pour résoudre le conflit avec le Hezbollah. Elles attendent une offensive au sol qu'elles espèrent imminente. Fanny Léonore Crouzet, Jérusalem, RFI.
Et après cette série d'explosions, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit s'exprimer aujourd'hui à 14h, temps universel. La communauté internationale s'inquiète de son côté d'un embrasement régional. Conséquence, réunion en urgence demain du Conseil de sécurité de l'ONU pour en discuter. Avant cela, les représentants de la diplomatie américaine, française, allemande et italienne ont rendez-vous aujourd'hui à Paris pour faire le point sur la situation au Liban, évidemment, mais aussi sur l'état des négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Ali Bongo renonce définitivement à la politique, annonce ce matin de l'ex-président gabonais qui demande dans un appel transmis à la presse de la clémence pour sa famille qui est victime, je cite, de violences et de tortures. Depuis le coup d'état du 30 août 2023, Ali Bongo vit dans sa résidence privée de Libreville, libre de quitter le pays selon le gouvernement, tandis que sa femme et son fils sont détenus à la prison centrale de Libreville. On prend à présent la direction des États-Unis et à cette semaine de la présidentielle, Donald Trump, en meeting à New York, s'en est violemment pris aux immigrés, hier en les traitant d'animaux, de terroristes, de criminels. L'ex-président américain qui brigue un nouveau mandat à la Maison-Blanche a annoncé qu'il se rendrait dans les deux prochaines semaines à Springfield, où de fausses rumeurs sur les Haïtiens qui mangeraient, selon lui, des chats et des chiens circulent. Pendant ce temps-là, sa rivale Kamala Harris était à Washington pour tenter de capter l'électorat latino-américain lors d'une réunion publique. Les États-Unis, plus que jamais fracturés. Illustration avec les Teamsters, un puissant syndicat de camionneurs. Hier, il a annoncé ne soutenir aucun des deux candidats. Une très mauvaise nouvelle pour la candidate démocrate. Les explications du correspondant de RFI à Washington, Guillaume Nodin.
les camionneurs américains ne rejoindront pas la cohorte de la majorité des organisations syndicales qui soutiennent Kamala Harris. Leur président l'a annoncé ce mercredi, au terme de plusieurs jours de consultations, notamment avec la candidate démocrate. Malheureusement, aucun des deux principaux candidats n'a été en mesure de prendre des engagements sérieux vis-à-vis de notre syndicat afin de garantir que les intérêts des travailleurs passent toujours avant ceux des grandes entreprises, dit Sean O'Brien. C'est pourtant l'une des bases du discours de Kamala Harris, mais ce refus de choisir est peut-être surtout le reflet de divisions au sein même du syndicat. Des sondages internes montrent apparemment qu'une majorité des adhérents sont sensibles au discours de Donald Trump. Le patron du syndicat s'était même exprimé lors de la convention républicaine. Cependant, des sections entières soutiennent fortement la candidate démocrate. Le parti démocrate obtient de manière continue le soutien des Teamsters depuis 1996. Cette fois, pas de consigne de vote pour les 1 300 000 adhérents de ce syndicat très puissant et organisé. Cela pourrait peser dans la balance dans les états clés du Midwest industriel où ils sont particulièrement nombreux. Guillaume Lona, Washington, RFI.
La Birmanie recense aujourd'hui 268 morts après le passage du typhon Yagi. 88 personnes sont également portées disparues, selon le dernier bilan communiqué par la junte, alors qu'une première cargaison d'aide étrangère est arrivée, selon les médias locaux. Les Nations Unies estiment à 630 000 le nombre de personnes qui pourraient avoir besoin d'aide suite au passage de ce super typhon. En Nouvelle-Calédonie, la crainte d'un regain de tension après la mort dans la nuit de deux hommes tués par des tirs d'un membre du GIGN au cours d'une opération au sud de Nouméa. Il s'agit de deux habitants de la tribu Kanak de Saint-Louis qui faisaient l'objet d'un mandat de recherche depuis le mois de juillet. Dans un communiqué, le FLNKS déplore un jeudi noir pour le peuple Kanak. Le procureur de la République de Nouméa a de son côté annoncé l'ouverture de deux enquêtes. La politique en France, dernière journée de consultation pour Michel Barnier, le Premier ministre qui a reçu ce matin les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les différentes formations politiques sont quant à elles convoquées à 15h, heure de Paris à Matignon. Objectif: former rapidement un gouvernement. Pendant ce temps-là, son prédécesseur Gabriel Attal se projette. Désormais chef du groupe macroniste Ensemble pour la République à l'Assemblée, il lève le voile dans les colonnes du Point sur ses ambitions. Les précisions de Valérie Gasse.
J'ai une histoire à écrire avec les Français. C'est par ces mots que se conclut l'interview de Gabriel Attal. Ce sont ceux qui traduisent le mieux son message. Dès la passation de pouvoir avec Michel Barnier à Matignon, l'ancien Premier ministre avait donné le ton en faisant quasiment une déclaration d'amour aux Français. Il leur explique maintenant ce qu'il veut leur apporter et reprend l'idée du dépassement des clivages politiques défendue par Emmanuel Macron en 2017. L'émancipation de Gabriel Attal passe par un retour aux valeurs originelles du macronisme, une manière de ne pas renier Emmanuel Macron qu'il a fait émerger, mais aussi de constater qu'il n'a pas réussi. Il se dit reconnaissant, mais libre, de plus en plus libre de mener sa barque. L'Assemblée nationale est son camp de base, mais il n'exclut pas de prendre aussi la tête du parti Renaissance, ni de se présenter à la présidentielle, et déclare que quand on veut servir son pays, on saisit les opportunités de le faire. Ouvert à tout donc, mais au bon moment. À ce stade, son projet, c'est de lancer à l'automne une fondation de lutte contre le harcèlement. Sa cause, un engagement au-delà de la politique pour montrer sa différence.
Valérie Gasse. On termine ce journal avec le foot, la Ligue des Champions. Et après la défaite de Lille, mardi, le PSG s'est timidement imposé hier soir 1-0 sur Gérone. Aujourd'hui, deux autres clubs français entrent en lice. Brest, le petit poussé de la compétition qui reçoit le Sturm Graz, champion d'Autriche en titre. Et Monaco qui accueille le FC Barcelone. Une affiche de gala pour ce retour très attendu de l'ASM au plus haut niveau européen. Thomas de Saint-Léger.
6 années sont passées, 6 années sans Ligue des Champions, une parenthèse bien longue dans l'histoire de l'AS Monaco. Et encore, le dernier souvenir est celui d'une campagne bâclée. Un match nul, 5 défaites avec quelques corrections au passage. Indigne d'une équipe habituée à beaucoup mieux. 3 fois dans le dernier carré depuis 1998, finaliste même en 2004. Le club du Rocher n'est pas un géant européen, mais il a son statut de poil à gratter, de petit capable de grandes épopées. Et pourquoi pas cette année ? Le parcours ne sera pas facile avec ce match d'entrée contre Barcelone, des déplacements sur le terrain d'Arsenal, de l'Inter Milan, mais la nouvelle formule laissera des ouvertures à un groupe cohérent où se côtoient l'expérience des tauliers, Kerrer, Zakaria, Golovin et l'audace des jeunes pépites, Akliouche, Benseguir, Camara, la vieille recette des bons crus du passé et un mélange déjà efficace cette année. En championnat, le départ est bon avec 3 victoires et 1 nul et puis on se rappellera de ce match de précédent saison, remporté 3-0 à Barcelone le mois dernier. Simple match amical certes, mais les Catalans de Koundé, Yamal et compagnie en étaient ressortis les joues rougies et assez impressionnés.
Monaco FC Barcelone, c'est donc à 19h, temps universel à suivre également. Étoile Rouge Benfica, Feyenoord Leverkusen, Atalanta Arsenal et Atlético Madrid Leipzig. Il est midi 10 à Paris, 10h10, temps universel, prochain journal dans une heure.